chercher à être baptisé dans l'Esprit et même prier instamment pour que cela lui soit accordé. Le Nouveau Testament nous montre différents faits importants à ce sujet. En Actes 1, 1 à 5 et chapitre 2, verset 1 à 4, nous est donné le récit du baptême des apôtres par le Saint-Esprit. 7 ans plus tard, certains non-juifs le reçoivent également. En Actes chapitre 10, verset 44 à 46. Le baptême du Saint-Esprit, bien que prophétisé par Jean-Baptiste, en ces termes, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit », est quelque chose de significatif, parce que Jésus ordonne aux apôtres de l'attendre à Jérusalem. Aucun d'entre eux ne savait pourtant quand ce baptême leur serait accordé. C'est au jour de la Pentecôte que les apôtres le reçurent, tandis que les non-juifs dont nous parlions il y a un instant, ignoraient totalement que cela devait leur souvenir. Ils ne l'attendaient ni ne le cherchaient d'aucune manière. Dieu annonça à Jean-Baptiste que le baptême du Saint-Esprit serait administré par Jésus, en Jean chapitre 1, verset 33 et 34. Et c'est exactement ce que le baptiste enseigne. Le Fils de Dieu accomplit cet acte deux fois. Il est exact que les apôtres ont été en même d'accorder des dons, des pouvoirs miraculeux impartis par le Saint-Esprit, après avoir prié et avoir imposé les mains à des chrétiens. Un exemple nous est donné en Actes chapitre 19, où Paul impose les mains à des chrétiens d'Éphèse. Et, je cite, « Le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » Fin de citation. Et c'est de cela que l'apôtre Paul parlait lorsqu'il dit à Timothée, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » C'est également de cela dont il s'agit, entre autres, en 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 11. Il est toutefois important de noter qu'en aucune instance un apôtre n'a baptisé quelqu'un du Saint-Esprit. Pierre et ses compagnons se trouvent être les témoins d'un baptême du Saint-Esprit lorsqu'ils se rendent chez Corneille, mais il n'en est pas l'auteur. Pierre en est même très surpris. Il réalise alors le but du baptême de ce groupe de personnes. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisé d'Esprit Saint. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu, Actes chapitre 11, versets 15 et 17. L'apôtre Pierre, en effet, considérait jusqu'alors, dans sa candeur, que l'Évangile ne s'adressait qu'aux seuls juifs. C'est pourquoi il s'écrit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Cette réaction de Pierre montre bien que ces événements n'avaient rien de courant. Ceux qui, de nos jours, prétendent être capables d'accorder ce baptême de l'Esprit ne font que tromper leur auditoire. Jésus est le seul qui puisse l'administrer. Jésus ne ressuscite pas chaque année. Il ne l'a fait qu'une seule et unique fois après sa crucifixion. Les miracles décrits par l'Ancien et le Nouveau Testament se sont bien déroulés devant de nombreux témoins. Leur but a bien été atteint et les détails de ces événements extraordinaires ont été dépeints par la Bible pour la postérité. Ces prodiges bibliques continuent à perpétuer leurs effets en provoquant une foi brûlante chez ceux qui en prennent connaissance ou qui les étudient dans les détails. Comme le dit très bien Jean chapitre 20, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'Épître aux Romains. Chapitre 10, verset 17. Ne dit-il pas aussi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De même, ces deux manifestations du baptême du Saint-Esprit, celles des apôtres, celles de Corneille et des siens, ont rempli un rôle très précis. Pour bien saisir leur but, il est essentiel d'examiner avec soin ce que le Nouveau Testament nous dit à propos de leur résultat. Les apôtres avaient été nommés par Jésus dès avant la rédaction du deuxième chapitre du livre des Actes. Et là, il faut voir une série de passages. Par conséquent, le baptême du Saint-Esprit n'a pas intronisé les apôtres dans leur fonction. Il leur avait d'ailleurs été accordé auparavant. la puissance d'opérer des miracles. En Matthieu 10, 1, il nous est bien dit que Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Un peu plus tard, dans les versets 19 et 20, nous apprenons également que le Messie leur dit, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur main. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Lorsque, d'après acte 2, ils reçoivent soudainement le baptême de l'Esprit, il leur est accordé une nouvelle fois la puissance d'accomplir des prodiges, peut-être d'une manière plus large, plus générale. Cela correspond d'ailleurs à ce qui leur avait été promis par le Seigneur à son ascension. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Mais lisons ce que dit acte chapitre 2, verset 2. À 12. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venant de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites. Ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Les apôtres partent ensuite proclamer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, de son ascension dans le ciel à la droite de Dieu le Père. Il est donc bien le Messie, le Christ. Les miracles que les Juifs font voir s'accomplir sous leurs yeux persuadent d'innombrables assistants que le message des apôtres est bien vrai. Comme va le dire l'épistolier aux Hébreux, au chapitre 2, verset 2 à 4. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un Seigneur salut? Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. 3000 d'entre eux obéissent aussitôt à cet évangile et c'est ainsi que fut fondée l'Église du Christ. Le but de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres est donc bien d'émerveiller les gens, de révéler l'Évangile, de confirmer ce message et d'établir l'Église avec une puissance inégalable. Durant plusieurs années, les chrétiens d'origine juive ne prêchèrent pas la bonne nouvelle aux non-juifs. Ce n'est qu'en acte 10 que deux visions vont amener l'apôtre Pierre et le centenier Romain Cornet à se rencontrer. C'est alors que Pierre et six autres chrétiens d'origine juive vont se rendre dans la maison de Corneille, en Actes chapitre 10, versets 23 et 11-12. C'est là, alors que Pierre discourait sur Jésus, que l'Esprit Saint va descendre sur Corneille et les gens de sa maison, tandis que tous louaient Dieu pour ce baptême miraculeux. Les chrétiens de souche juive qui avaient accompagné Pierre furent étonnés, je cite, étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit ainsi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Et le résultat direct de ce baptême exceptionnel du Saint-Esprit fut que les Juifs n'empêchèrent plus les non-Juifs d'obéir à l'Évangile. Ils furent donc baptisés d'eau au nom du Seigneur. Tout obstacle tombait quant à la conversion des gentils, alors que jusqu'à présent, seuls les gens de descendance juive croyaient y avoir accès. Dans la maison de Corneille, située à Césarée, Pierre et ses compagnons se rendent à Jérusalem. Et là, on commença par leur reprocher leur familiarité avec les non-juifs. « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux !» Actes 11, 3. Et Pierre leur raconte dans le détail sa vision, puis celle que Corneille avait eue, et finalement l'effusion du Saint-Esprit sur des non-juifs, Actes chapitre 11, verset 4. Une fois de plus, ces événements prennent leur pleine signification dans les esprits. Actes 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifiaient Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Le baptême du Saint-Esprit accordé à ces non-juifs avait pleinement rempli son rôle qui était d'ouvrir le chemin à l'obéissance de l'Évangile à tous les êtres humains, sans distinction de race et en dehors de tout préjugé. Le Nouveau Testament ne lui donne aucune raison, aucun motif de chercher à être baptisé du Saint-Esprit. Oh non. Aux alentours de l'an 64 après Jésus-Christ, soit environ 20 ans après l'incident que nous venons de relater, l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. » Il y a un seul Seigneur, une seule foi, écoutez, un seul baptême. Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Chaque personne entrant dans le corps de Christ, son Église, doit le faire en passant par le seul baptême qui existe encore, le baptême d'eau, au nom de Jésus et pour la rémission des péchés. Ce baptême d'eau correspond à un ordre auquel elle se conforme. De nos jours, le Saint-Esprit habite-t-il en chaque chrétien? Bien sûr! Les chrétiens ne possèdent pas de pouvoir miraculeux, mais l'Esprit vit en eux. L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez aussi de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Cela s'adresse également à nous au XXe siècle.